Frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de trois générations. C'est comme ça qu'il se nomme. L'Église n'est pas complète si les trois générations ne sont pas présentes. Ils ne sont pas accueillis chacune pour leur charisme et leur ministère respectif. Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Ouvrons nos groupes de prière, ouvrons nos communautés à toutes les générations. Amen. C'est aussi ça l'unité. L'unité entre les générations. Puisque la parole nous dit que viendra un temps où, grâce au Messie, le cœur des pères et des fils, vous souvenez, ils vont se retourner les uns vers les autres. Je paraphrase un peu la parole de Dieu. Mais voilà, les générations vont se réconcilier. Amen. Alors, gloire à Dieu pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frères et sœurs, avant de commencer ce partage sur l'unité, j'aimerais reprendre la première image que on a projetée. Vous vous souvenez, cette image du lac qui est retenu avec cette parole qui dit « Vous avez reçu toute la richesse de sa grâce ». Et une des grâces essentielles, c'est la grâce de l'unité. Et j'aimerais commencer par une anecdote qui remonte à pas mal d'années. J'étais un peu plus jeune, c'était dans les années 90, et nous avions une association que certains d'entre vous connaissaient qui s'appelait la Tente de l'Unité. Et la Tente de l'Unité se déplaçait partout où des chrétiens de différentes églises et groupes de prière se rassemblaient pour l'inviter pour des missions d'évangélisation interconfessionnelles. Et notamment, une de ces missions d'évangélisation, je l'ai faite avec Guino, et je me souviens d'une après-midi où on chantait, et puis après on donnait des témoignages, et puis il y avait ceux qui ne chantaient pas et ceux qui ne prêchaient pas, ou qui ne donnaient pas leur témoignage, étaient répartis là, autour de nous, et ils s'approchaient des gens qui voulaient discuter, à qui ils pouvaient parler, pour dire qui on était et partager l'évangile. Et à la fin du temps de témoignage et à la fin du temps de chant, on a vu un couple s'approcher presque en larmes. Et ils n'ont dit qu'une seule parole. « Enfin, vous êtes ensemble. Enfin, vous êtes ensemble. » Et c'est ça qui les avait convaincus. Amen, frères et sœurs. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'unité, frères et sœurs, je passe, si ça fonctionne, à la diapositive suivante. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. L'unité, c'est parfois un peu problématique. L'unité, frères et sœurs, c'est d'abord l'exaucement de la prière sacerdotale du Messie. L'unité, c'est l'exaucement de la prière la plus importante, la plus, je dirais, sensible, peut-être la plus dramatique que Jésus ait faite, parce qu'il l'a faite juste avant sa passion. Il nous la laisse comme un testament spirituel, cette prière de Jésus. Et vous la connaissez, de Jean 15 à Jean 17. Et Jésus, voilà ce qu'il a dit, essentiellement, « Père, qu'il soit un, comme nous sommes un ». C'est Jean 17, verset 22. Vous connaissez tout cela. Mais il a dit surtout, « Afin que le monde croie que tu m'as envoyé ». Frères et sœurs, l'unité des disciples de Jésus-Christ n'est pas une option. Je répète, vous notez, ce n'est pas une option. Notre désunion est le pire contre-témoignage à l'Évangile dans ce monde. Parce qu'elle montre aux malins et au monde que la prière de Jésus n'a pas été exaucée. Alors que Jésus dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». Notre désunion, écoutez bien, je vais prendre un mot, je mets beaucoup de guillemets pour choquer personne, est un sacrement de division. Vous entendez? Alors que nous avons le ministère de réconciliation. Et le malin est le diviseur. Quand nous ne sommes pas unis, ce n'est pas Jésus que nous servons. C'est nous-mêmes, notre orgueil ou le malin. L'unité n'est pas une option. Et c'est pour ça que cette prière, je dis qu'elle est dramatique. Parce que Jésus sait ce qu'il risque d'arriver. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait qu'il y aura un combat pour que tous ceux qui suivront Jésus-Christ restent unis. Et ce sera sans doute le plus grand combat jusqu'à la fin des temps. L'unité n'est pas une option. Alors, j'aimerais vous rappeler une chose. Avant de travailler le texte, j'ai envie de travailler le texte de Jésus et d'amener, comme si on faisait un retour en arrière, au fondement de l'Église de Jésus-Christ, qui a commencé à Jérusalem. Vous êtes bien d'accord avec ça? Si vous étiez ancien dans le renouveau, moi j'ai eu la grâce de connaître le renouveau charismatique en 1973. J'étais plus jeune que Nathan encore. Mon père était protestant, je suis né dans une famille protestante, et mon père était conseiller presbytéral dans une paroisse réformée, celle où j'ai grandi, celle où j'ai été nourri. Et cette paroisse a invité Thomas Roberts en 73 à venir donner une semaine d'enseignement. Et évidemment, quand Thomas Roberts arrive, il se passe des choses. Parce que, vous voyez, vous avez tous connu beaucoup Carlos Payan. Thomas Roberts, c'était la génération d'avant Carlos Payan, avec le même ministère d'unité. Et Thomas Roberts, il prêchait bien sûr le baptême du Saint-Esprit. Et mon père l'a reçu. Quand il est rentré le soir à la maison, nous on était déjà couchés, le lendemain matin on s'est dit, tiens, papa, il s'est passé quelque chose. Il débordait de joie. Et tout a été renouvelé dans sa vie de prière, dans sa vie personnelle. C'était déjà un chrétien, mais tout a été renouvelé. Et dans la semaine qui a suivi, le Seigneur l'a mené dans un groupe de prière catholique, guidé par l'Esprit Saint, qui venait de s'ouvrir. C'était le premier groupe de prière catholique charismatique de la ville de Lille, qui s'appelait la Pierre Vivante. Il se réunissait au couvent des Carmes, et mon père est resté co-berger de ce groupe pendant 15 ans. Frères et sœurs, c'était ça l'ADN du renouveau charismatique en France. L'ADN, c'est un ADN d'unité. Un ADN d'unité. Parce que la grâce du Saint-Esprit, l'Esprit Saint est un esprit d'unité. Et moi, j'allais dans ces réunions de prière-là. Et la première fois où j'ai prié en langue, c'était dans ce groupe de prière catholique, après avoir reçu l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit dans ma paroisse protestante. Mais c'était que ça au début du renouveau. Que s'est-il passé? Parce qu'il y a un temps où ça s'est un peu affadi, où le renouveau s'est reconfessionnalisé, du côté catholique et du côté évangélique aussi. Et là, on est en train de se retrouver et de se dire, mais Seigneur, où est l'ADN que tu nous as donné au départ? Vous suivez, frères et sœurs? Cet ADN, il y avait quatre piliers. Cet ADN, c'était l'unité visible de tous les disciples du Christ. L'autre ADN, c'était ensemble annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ensemble. Troisième ADN, prier pour que nous désirions, nous soyons renouvelés dans l'espérance du retour en gloire de Jésus-Christ, que le Maranatha, que l'Esprit prie avec l'épouse, soit authentique dans nos cœurs. Et enfin, prier pour que le peuple juif soit illuminé et accomplisse sa vocation d'être la racine qui nous porte. Frères et sœurs, c'était l'ADN du renouveau au départ. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre cet ADN-là. Parce qu'en particulier, c'est en France qu'il avait été donné aussi intensément. J'ai animé pendant plus de 30 ans la Convention charismatique de Gagnères, qui était totalement interconfessionnelle, qui avait été lancée notamment par Thomas Roberts et d'autres. Et tous les orateurs qu'on invitait venant d'ailleurs que la France nous disaient « Vous avez quelque chose d'unique qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous êtes totalement interconfessionnel. » Cette grâce, elle est en particulier donnée à la France. Il ne faut pas qu'on la perde. Et regardez aujourd'hui, je vous prends un témoin, c'est un protestant qui vous prêche dans un sanctuaire marial. Amen ! Alors, frères et sœurs, il nous faut avancer en eau profonde et dire, Seigneur, cet ADN que tu as donné, nous voulons qu'il s'exprime en nous. Nous voulons être cette épouse que tu prépares. Et je le redirai comme un leitmotiv, j'ai été professeur, je sais que la pédagogie, c'est enfoncer le clou. Jésus est monogame, il a qu'une seule épouse, il n'est pas polygame. Et les demeures qu'il prépare pour nous, c'est pas des demeures pour plusieurs épouses. Il n'a qu'une seule épouse. Il faudrait peut-être qu'on apprenne à être cette épouse avant de se retrouver avec lui là-haut. Amen, frères et sœurs. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint que de préparer l'épouse. Alors, frères et sœurs, revenons au texte. Si vous le voulez bien. La prière de Jésus avant sa passion, s'il n'y a pas de diapositive, ça ne vous gêne pas, ce n'est pas grave. Je donnerai les références si vous voulez, mais c'est des textes assez connus. Donc, Jean 17. Ma question est, pour qui Jésus prie-t-il? Pour qui Jésus prie-t-il? Je vais vous relire le texte, si vous le voulez bien. Jésus dit, à partir de Jean 17, verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » C'est qui ce « ils » Ah, c'est pas vous encore, hein. C'est les disciples. Je vous rappelle qu'il y avait aucun protestant, aucun catholique, aucun évangélique, aucun pentecôtiste. Ils étaient tous juifs. Jésus a dit, je suis d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël. Il a dit, le salut vient des juifs. C'est un présent. C'est pas un passé. Je continue. Jésus prie, ils sont dans le monde et moi je vais à toi. Jésus sait que, en mourant sur la croix, il va être appelé auprès du Père dans sa glorieuse ascension. Il a accepté de passer par la croix. Vous vous souvenez qu'il l'a accepté. Et à quel prix? Mais voilà ce qu'il continue à dire. Père Saint, garde en ton nom tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors là, on pourrait s'arrêter. Ça suffit. Être un comme le Père et le Fils sont un. L'unité dont nous ne témoignons pas, c'est un contre-témoignage à la Trinité. Vous entendez? C'est pas étonnant s'il y a eu autant d'hérésies, on a entendu parler. C'est pas étonnant s'il y a eu aussi autant de déviances qui ont affirmé l'unicité de Dieu sans son unité. Avons-nous été témoins de cette Trinité par la manière dont nous vivions entre nous au cours des temps? Je continue. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition. Vous voyez de qui il parle? De Judas. Afin que l'écriture fût accomplie. Autrement dit, on voit bien que Jésus, dans le contexte, il ne prie que pour ses disciples. Pas pour nous directement. Ok? Il prie quoi? Il prie pour la racine qui portera tout. Je continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est au verset 20. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qui est le premier disciple qui a prêché? Pierre. Je vous ai déjà dit que Pierre, hein, il n'est pas catholique, hein, ni protestant, ni évangélique. Quels sont ceux qui ont prié après? Vous lisez les actes. Étienne. Bon, Étienne, je ne dis pas ça pour moi, mais Étienne, c'était un juif qui parlait grec, vous voyez? Paul, tous des juifs. Je continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ça insiste. Cette unité qui fait que le Père et moi, nous sommes un. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Autrement dit, Jésus anticipe déjà, Seigneur, je te prie, je sais qu'il y aura un combat pour que tous ceux qui m'ont connu, qui vont prêcher l'évangile, et tous ceux qui vont être touchés par la parole et venir à moi par leur prédication, que ceux, les premiers disciples et ceux qui viendront ensuite, restent. Et j'insiste sur le fait que cette prière, quand vous la lisez, je trouve qu'elle a un côté dramatique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle a un côté solennel. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Mais ça insiste à chaque phrase. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour qui Jésus prie-t-il? Jésus sait que le combat qui va être le plus difficile, c'est que des juifs et des non-juifs soient ensemble autour du Messie. Et c'est encore un combat aujourd'hui. Et ce qui nous permet de comprendre cela, c'est que cette prière de Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus, ses prières sont toujours exaucées? Moi, je le crois et je le confesse face aux puissances. Les prières de Jésus sont toujours exaucées. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, je saisis dans la foi cette prière de Jésus et je dis, Seigneur, utilise-moi pour qu'elle soit parfaitement accomplie. Alors, voilà ce qui va se passer quand vous lisez l'histoire. Tous les récits sont dans les actes des apôtres, vous êtes d'accord? Les actes des apôtres sont extraordinaires. Pourquoi? Ce sont les actes des apôtres. On sont sur les actes des 12 apôtres. Bien sûr qu'il va y en avoir d'autres, vous êtes d'accord? Mais d'abord, ce sont leurs actes à eux. Et qu'est-ce qui nous est dit? On va voir que dans ces actes des apôtres, on va voir que l'exaucement de la prière de Jésus commence dès la première génération et qu'il est au fondement de l'Église de Jésus-Christ. Alors, quand voit-on cet exaucement ? Eh bien, vous savez que lorsque Pierre prêche, je vais résumer, vous connaissez tous ces récits, acte 2, acte 4, lorsque Pierre prêche à la Pentecôte, ils étaient 120, vous êtes d'accord ? Et là, c'est clair qu'il n'y avait que des Juifs. Que des Juifs. Je vous redonne un scoop aussi, Marie, son nom c'est Myriam, elle est juive. C'est la Vierge d'Israël. Et donc, ils étaient tous là, attendant la promesse que Jésus avait donnée, mais qui faisait aussi référence à Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous savez, Marie, elle connaissait sa Bible. Hein ? Vous êtes d'accord ? Pierre et Paul, sans doute aussi. Et donc, ils attendaient conformément à la promesse qui allait venir. Et l'Esprit Saint est répondu, vous le savez, et Pierre commence à prêcher. Il prêche à Jérusalem pendant une fête qu'il a faite de Shavuot, où il y avait plein de Juifs qui étaient rassemblés de la diaspora, donc des Juifs qui parlaient aussi grec. Et on dit qu'il y a plusieurs milliers de conversions. Et qu'est-ce qu'il choisit comme texte pour prêcher ? Joël, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette prophétie s'exauce à la Pentecôte. Vos fils et vos filles auront des songes, etc. Et naissent alors la première communauté de Juifs croyants en Jésus, Messie d'Israël, Sauveur du monde. Vous y êtes ? Et où est-ce qu'ils se réunissent ? Dans les maisons, groupes de maisons, groupes de prière. Et à quoi ils étaient assidus ? Alors, à la prière, c'est une prière à votre avis de quel genre ? Yeshua ! Je pense qu'il y avait, c'était peut-être pas encore ces chants-là, mais il devait y avoir de la joie. On est d'accord ? Même s'il n'y avait pas encore d'Africains parmi eux, il y avait déjà de la joie. Ils étaient ensuite assidus à l'enseignement des apôtres, bien sûr, qui transmettaient ce qu'ils avaient reçu, la parole. Ensuite, la fraction du pain. C'est l'Eucharistie, vous êtes d'accord, la Sainte Cène. Et ensuite, à la communion fraternelle et au temple. Ils allaient au temple, qui n'était pas encore détruit, trois fois par jour, prière liturgique juive, prière des psaumes. Frères et sœurs, ça va ? Et qu'est-ce qui se passe ? On dit que ça grandissait. Et chaque jour, l'Esprit Saint ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wouh ! Ça, c'est le boulot du Saint-Esprit. À nous de nous laisser saisir par lui et de témoigner dans l'unité. Et je continue, si vous me suivez toujours. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme dans beaucoup de réveils, ça va aussi réveiller la persécution. Ne soyez pas étonnés, Jésus l'a dit, hein ? Si vous ont persécuté, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et je vais très vite, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'après les persécutions par, et d'ailleurs Saul de Tarse était là, assistant à la lapidation d'Étienne, il va y avoir une dispersion en Samarie, et là, les Samaritains vont être touchés. Les Samaritains, on pourrait dire, j'espère que je ne choque personne, c'était entre Juifs et Samaritains, c'était comme entre catholiques et protestants, vous voyez, c'était... Il y avait une espèce de tradition qui se faisait qu'on s'excluait les uns les autres. Les Samaritains adoraient sur le mont Garizim, les Juifs sur Jérusalem, mais tous les deux, en fin de compte, avaient comme base quand même des textes de Moïse. On est bien d'accord ? Donc de Jérusalem en Samarie, et de Samarie jusqu'où après ? Jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la vocation d'Israël, c'est d'être la lumière des nations. La vocation d'Israël, c'est d'être la lumière des nations, et ça l'est toujours. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Alors je continue, frères et sœurs. Arrive alors ce qui se passe, et puis on arrive à acte 10. Jusque-là, pour Pierre, tout va bien. Jésus avait dit qu'il allait nous envoyer pour enseigner, pour évangéliser. L'Église grandit, la communauté de Jésus-Christ grandit, ce qu'on appelle les disciples de la voie grandissent. Et puis, en acte 10, Pierre se retrouve chez un corroyeur. Vous connaissez ce texte ? Pour moi, c'est un des textes les plus fondamentaux de la fondation de l'Église. Acte 10, acte 11. Acte 10, Pierre est chez un corroyeur. Il monte sur le toit pour prier. Vous vous souvenez de ce texte-là ? Pourquoi il monte sur le toit pour prier ? Parce que Pierre est un juif pieux pratiquant. Il pratique tous les commandements, comme l'apôtre Paul. Il mange cachère. Il y a les tzitzit. Et c'est impossible pour un juif de prier et d'être en contact dans un lieu où il y a des cadavres d'animaux. Or, un corroyeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le cuir des animaux morts. Donc, il ne peut pas prier dans la maison, il va sur le toit. Si Pierre avait déjà eu l'exemple de Jésus allant chez les païens, il n'aurait pas eu de problème. C'est donc que Pierre n'avait jamais vu Jésus aller chez un païen. Autrement, on n'aurait pas eu le récit d'Acte 10. Vous me suivez? Je suis d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il prie, et là, il est en extase, il a une vision. Et vous connaissez cette vision par trois fois. Qu'est-ce qu'il va voir descendre? Un drap avec plein d'animaux impurs. Tous ceux que le code de sainteté, parce que la loi juive, c'est ce qu'on appelle le code de sainteté, interdit de manger pour rester un peuple consacré à l'Éternel qui ne se mélange pas aux traditions païennes. Tue et mange. Pierre dit, c'est pas possible. Seigneur, je traduis à ma manière, tu ne peux pas me demander ça. Tu ne peux pas me demander ça. Pourquoi? On m'a appris à t'aimer en ne mangeant pas ces animaux. Et je t'aime de tout mon cœur. Comment je pourrais trahir l'Éternel que j'aime de tout mon cœur et son Messie en mangeant ce que la loi de Moïse m'interdit? Puisque c'est comme ça qu'on m'a appris à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et Pierre ne peut pas. Et alors, la vision s'arrête. À chaque fois, il dit non, je peux pas. Et on dit dans le texte, il reste un peu perplexe. Ça veut dire, c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé ou quoi, quoi. Vous voyez, c'est... Et juste à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Arrivent les serviteurs de Corneille, un païen. Ces païens étaient des craignants Dieu. C'était sans doute des Romains qui déjà avaient été sensibilisés au fait que le Dieu d'Israël devait être le seul vrai Dieu, mais qui n'était pas circoncis, qui n'avait donc pas, s'est pas converti au judaïsme, vous suivez, mais qui était interpellé et qui cherchait la vérité. Et Dieu, finalement, va envoyer Pierre chez ce païen, Corneille. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pierre arrive chez Corneille et c'est là qu'il va comprendre pourquoi Dieu l'avait averti par vision. Parce que Pierre étant juif, Corneille étant païen, Pierre ne pouvait pas rentrer chez Corneille. C'était interdit par la loi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous ceux qui écoutaient la parole, c'était tous des non-juifs. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. C'est donc le charisme du don des langues et du chant en langue et du parler en langue. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Début de l'exaucement de la prière de Jésus. Des juifs et des non-juifs réconciliés par l'exaucement de la prière du Messie, par l'onction du Saint-Esprit. Je transpose. Mon père, lorsqu'il est arrivé dans ce groupe de prière catholique que je vous dis en 73, personne ne le connaissait. Il y avait 200 personnes déjà. Ils font un petit tour pour présenter les nouveaux. Mon père était nouveau. Et mon père, au moment où il se présente, c'était un prêtre qui était là, qui dirigeait le groupe. Il se présente, il dit, voilà Gaston Vanout, conseiller presbytéral de l'Église réformée de France. Et le prêtre, comment? Chez vous aussi? Rassemblé par l'Esprit. Ça faisait 4 siècles qu'on était séparés. 4 siècles qu'on ne pouvait pas rentrer les uns chez les autres. Mon père me disait que dans les années 60, c'était interdit pour un catholique de rentrer dans un temple protestant. Et vous n'auriez jamais vu un évangélique rentrer chez les papistes, là où il y avait des statues de Marie et des saints. Est-ce que c'est des idolâtres? Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On était encore là dans les années 60. Hein, et parfois, on en est encore un peu là, dans certaines de nos églises. L'Esprit-Saint a été donné sur toutes les églises. Et comme l'a dit Jean-Baptiste ce matin, ça a commencé par les pentecôtistes et c'est arrivé jusqu'à l'Église catholique, ça a mis 15 siècles. Un siècle pour récupérer 4 siècles de division mortifère. Il y a eu des morts, frères et sœurs. Et en France, on sait ce que ça veut dire. Dans cette région ici, ça n'a pas été facile. Dans les Cévennes un peu plus loin, ça a été tragique. Et dans le nord d'où je viens, c'était les Espagnols qui étaient là. Croyez-moi, les protestants, ils ont souffert. les catholiques aussi, parce qu'il y en a qui se sont vengés. Une petite anecdote, vous connaissez le président des États-Unis, Roosevelt. Roosevelt, c'est un nom flamand. Hein. Son vrai nom, c'est Franklin Delano Roosevelt. Delano, c'est une ville à côté de chez moi. C'est un descendant des Huguenots qui ont dû fuir par la Hollande pour arriver aux États-Unis. Alors, frères et sœurs, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce qui se vit là, en fin de compte, c'est l'exaucement de la prière de Jésus. Enfin, des juifs et des non-juifs, mais ça paraissait incroyable, c'était impossible. La séparation était totale. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un parvis des gentils. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ce parvis, des gentils qui voulaient s'approcher du Dieu d'Israël pouvaient rentrer, mais pas aller plus loin. Après, il y avait le parvis des juifs, hommes et femmes, et après, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait sur un mur de séparation réel. Et sur ce mur, il était noté « Quiconque franchit ce mur sera puni de mort ». Autrement dit, un païen ne pouvait pas franchir ce mur, il allait être lapidé. C'était impossible, la séparation était stricte. Pourquoi ? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et frères et sœurs, Pierre alors, Pierre, qu'est-ce qui se passe ? On le rappelle à l'ordre à Jérusalem. Et au Pierre, là, qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est quoi ces trucs-là ? C'est quoi des non-juifs qui sont baptisés dans l'Esprit et que tu baptises au nom de Jésus ? Oui. Et Pierre explique en détail ce qui s'est passé. Alors le texte nous dit, c'est magnifique, tous se réjouirent de ce que le Seigneur avait fait. Mon frère, ma sœur, tu t'es réjoui quand tu as rencontré des frères et des sœurs d'autres églises que la tienne, baptisés du Saint-Esprit. Moi, oui, je me réjouis encore d'être avec vous ici. Amen. Amen. Si on vit cela, on est toujours dans les ossements de la prière de Jésus. Alléluia. Je continue. Que c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que finalement, on s'aperçoit que, après Jérusalem et la Samarie, ça va commencer à gagner les nations. Et je pense que les disciples de Jésus juifs, connaissant la parole de Dieu, se rendaient compte, mais on est en train de réaliser la vocation d'Israël, qui est d'être la lumière des nations. On est en plein dedans. Amen. Et on continue un peu plus loin. On est toujours dans l'exaucement de la prière du Messie avec Pierre. Et dans Actes 11, c'est extraordinaire, parce que la persécution, elle continuait quand même. La persécution, elle continuait. Et du coup, certains qui avaient été persécutés étaient partis plus loin que la Samarie, plus loin que là où habitait Corneille. Et ils étaient arrivés, devinez où ? En Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, en Syrie. Donc là, on est hors du territoire d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les disciples qui avaient dû fuir la persécution commencent alors à évangéliser et c'est des Grecs qui se convertissent. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite ? Ils s'en réjouissent. Ça arrive aux oreilles de Jérusalem, l'église de Jérusalem qui est l'église mère de l'époque. Et ils envoient Barnabas, qui veut dire l'homme qui encourage. Ils envoient Barnabas là-bas pour voir ce qui se passe. Il reste. Il voit ce qui se passe, et devinez ce que fait Barnabas. Il va chercher Paul, qui est à Tarse. Paul, on savait que c'était le persécuteur qui s'était converti sur la route de Damas, mais depuis, on n'avait plus entendu parler de lui. Il s'était retiré. Parce que Paul, il fallait que tout se remette en place dans sa tête. C'était un sacré bouleversement pour lui. Comme ça a dû être un sacré bouleversement pour des prêtres catholiques de voir des protestants baptisés du Saint-Esprit et l'inverse aussi. Comme ça a été un sacré bouleversement quand mon cher Guy Lepout m'a dit « Étienne, ça fait 4 siècles que vous ne communiez pas à notre table catholique, pourtant je vois que vous êtes béni. » Et je lui répondis « Oui, parce qu'il n'y a qu'une seule table en Jésus-Christ. » Ce n'est pas nos théologies qui vont continuer de nous séparer quand même. Il n'y a qu'une seule table, même si pour l'instant, on a du mal à la vivre ensemble. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Amen, frères et sœurs. Et je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont chercher Paul, et Paul, il va commencer à enseigner. Et c'est là qu'il va devenir l'apôtre Paul, et qu'il va comprendre que sa vocation, c'est d'être l'apôtre des païens et des nations en tant que juif, accomplissant la vocation d'Israël par le sacrifice du Messie qui a ouvert les portes. Et Paul, Alors, va commencer à enseigner et on va dire, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Mon frère et sœur, c'est quoi une église chrétienne? C'est une église, une communauté où des juifs et des non-juifs sont ensemble. S'il n'y a pas de juifs, l'église n'est pas complète. S'il n'y a pas de non-juifs, l'église n'est pas complète. Où est-ce qu'on en est, frères et sœurs? Est-ce que c'est simple ce que je dis dans le contexte actuel? Pas du tout. Quel drame! Moi, je confesse que la prière de Jésus est déjà exaucée. Je veux rentrer dans le chemin de l'exaucement, faisant en sorte qu'il n'y ait plus aucun obstacle en moi à son exaucement. Amen. Je refuse d'utiliser les lunettes de l'humanisme chrétien, de l'humanisme païen, de la géopolitique actuelle. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je veux prendre les lunettes du Saint-Esprit. Ce qui est spirituel ne se discerne que spirituellement. Et la prière de Jésus, elle est spirituelle. Amen. Alors, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et donc, vous voyez que là, on est dans l'exaucement de la prière de Jésus, incarné, concret. Et qu'est-ce que ça va être quoi le combat de l'apôtre Paul toute sa vie? Ça va être en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle entre ce que juifs et non-juifs soient ensemble autour du Messie. Vous vous souvenez qu'il va aller avec Pierre à Jérusalem, c'est le premier concile à lui à Jérusalem, et c'est Jacques, celui qu'on appelle le frère de Jésus, et là-dessus, vous inquiétez pas, je vais pas discuter ce que veut dire le mot frère, peu importe, c'est pas ça l'essentiel. Jacques était là, et il apprend ce qui se passe, et il va trancher. La question est c'était, mais est-ce que tous les non-juifs qui commencent à affluer en masse, en se convertissant, en étant baptisés d'esprit, doivent passer par le judaïsme en se convertissant pour être fidèles à Dieu? Et Jacques discerne avec Pierre et Paul que non, ce sont les temps messianiques de l'accomplissement de la prière de Jésus, de l'accomplissement de la vocation d'Israël. Les non-juifs n'ont pas à être juifs pour croire en Jésus, mais juifs et non-juifs doivent être ensemble et ne pas se choquer les uns les autres. Donc on demande aux non-juifs de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était courant à l'époque pour tous les païens, il y avait des temples païens partout, de l'impureté sexuelle, d'accord, de toute forme d'idolâtrie, de pas manger d'animaux tués dans leur sang. J'en ai parlé une fois avec un rabbin, il m'a dit, mais ça, tiens, ce sont les règles noachiques que nous appliquons pour les païens depuis la sortie de l'arche de Noé, depuis la fin du déluge. Donc pour les juifs, ce sont des règles qui sont pour les païens et qui leur permettent de sortir de l'idolâtrie. Retenez ce que je viens de vous dire, je vous lirai un texte tout à l'heure. Et donc, on fait ça autrement dit, pour la première fois est décrété que pour devenir un croyant en Jésus, le Messie, et en croyant au Dieu d'Israël, il ne faut plus forcément être juif circoncis. Je ne sais pas si vous voyez la portée de l'événement. Colossal. Eh bien, c'est le premier concile de l'Église. C'est le concile de Jérusalem. Et frères et sœurs, alors, l'apôtre Paul, qui a vécu tout cela, il va être le docteur que l'Église nous a donné pour interpréter et comprendre ce que Jésus a vraiment accompli à la croix. C'est pas Pierre qui va interpréter, c'est Paul. Parce que Pierre, c'est un évangéliste incroyable, vous êtes d'accord? C'est un bouillant pour Jésus, on voit bien ce qu'il a fait, et puis ça a été un apôtre extraordinaire, rien n'est... Mais Paul, ça a été vraiment l'intellectuel dont l'entonnoir a été renversé. Merci Jean-Baptiste. Vous y êtes? Et voilà ce que Paul dit. Et je vous invite à reméditer l'épître aux Éphésiens, qui était le texte de la prière des Laudes de ce matin. On y va? Écoutez bien, voilà ce que dit Paul aux Éphésiens. Il s'adresse, vous savez, vous voyez où est Éphèse? Éphèse, c'est pas en Israël, vous êtes bien d'accord, c'est où Éphèse? En Turquie. Donc il s'adresse à une communauté où il y a une énorme majorité de non-juifs. Parce qu'à partir de, on va dire, d'un certain moment, les non-juifs vont devenir majoritaires dans les communautés. Et il s'adresse à eux. Il y a encore des juifs, sans doute, dans les communautés. Mais ça commence un peu à basculer, vu le nombre de païens qui deviennent adeptes de la voie et se convertissent à Jésus-Christ. Et alors voilà ce qu'il dit à ces païens. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, il y a peut-être quelques années, vous étiez identifiés comme non-juifs, dans votre corps, appelés incirconcis par ce qu'il était. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de citer en Israël. Frères et sœurs, le droit de citer, comment il est écrit? On est dans un contexte grec. C-I-T-E, accent aigu. Ceux qui ont fait de l'histoire, c'était quoi le droit de citer pour un grec? Si tu avais le droit de citer, tu n'étais plus un barbare ni un métèque. Tu étais un citoyen qui avait des droits et qui pouvait voter. Et tu avais ta place dans la cité. Si tu n'avais pas le droit de citer, tu étais un métèque. Tu valais rien. Et donc il dit à des Grecs, vous n'aviez pas le droit de citer, vous ne pouviez pas être membre du peuple de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Autrement dit, toutes vos idoles, c'est de la vanité. Vous n'y aviez rien. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie. Notre unité a coûté ce prix-là. Et Paul l'a compris. En effet, Jésus, lui, il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. De qui il parle? Des juifs et des non-juifs. Des deux, il n'en a fait qu'un. Frères et sœurs, on est au fondement de l'Église de Jésus-Christ. Je continue. Et qui a renversé le mur qui les séparait. De quel mur il parle? C'était concret. C'était le mur qu'il y avait dans le temple de Jérusalem. Vous vous souvenez que le voile du temple s'est déchiré. Et le mur a été renversé. Désormais, juifs et païens ont libre accès auprès du Père, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Parce que le Messie, souverain sacrificateur, s'est sacrifié pour que nous puissions avoir libre accès par son sacrifice de pardon total au trône de grâce. Si vous ne connaissez pas, si nous ne connaissons pas la tradition juive, la tradition sacerdotale juive, nous ne comprenons pas ce que Jésus a fait. Il nous faut relire l'Épître aux Hébreux. Vous savez ce qu'il y a derrière l'Épître aux Hébreux? C'est la fête du Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. Je continue. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Autrement dit, Paul dit, le corps du Christ, c'est juif et non juif ensemble. Point barre. Et je continue. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Maintenant, vous avez le droit de citer. Membre de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. De quels prophètes il parle? Pas les prophètes des groupes de prière. Les prophètes qui révèlent le Messie, les prophètes d'Israël. Ézéchiel, Ésaïe, Zacharie, Jérémie, Amos, Osée, Joël. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur Jésus-Christ, le Messie, lui-même étant la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ça, c'est Paul. Et je continue. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux, donc avec les juifs, pour former une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes donc le temple du Saint-Esprit. Waouh. Et je termine. Paul, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, plus loin dit, écoutez, moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je vous l'ai expliqué en quelques mots. En le lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère du Christ. Autrement dit, il n'est pas en train de se vendre par vantardise en disant, mais ce mystère, il m'a été révélé, j'ai aucun mérite, mais je vous le partage tel qu'il m'a été révélé. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Autrement dit, frères et sœurs, nous sommes co-héritiers de toutes les promesses que Dieu a fait à Israël et qui se sont accomplies par le sacrifice du Messie pour nous. Nous ne les avons pas remplacés, nous ne sommes pas héritiers à leur place, ce que l'Église a fait pendant 19 siècles. Alors pourquoi, Étienne, tu nous dis tout ça? Parce que j'ai une conviction, frères et sœurs. Je vous la partage. Je vous l'ai dit, j'ai grandi dans le renouveau. J'avais 13 ans. C'est pas un mérite, c'était comme ça. Et j'ai vécu cette joie de l'unité et de la réconciliation. Et quand je voyais mon père qui m'expliquait à quel point c'était une bénédiction que des juifs, que des catholiques et des protestants et des évangéliques soient ensemble. C'était extraordinaire. Et il a fallu cette œuvre du Saint-Esprit pour nous guérir de 4 siècles de séparation. Vous êtes d'accord? 4 siècles douloureux. 4 siècles où on s'est excommuniés presque les uns les autres. 4 siècles où on a cru qu'il fallait impérativement que tous les catholiques deviennent protestants ou que tous les protestants deviennent catholiques pour que l'unité se fasse. Ce qui n'est pas vrai. L'unité, c'est pas l'uniformité. Jean-Baptiste nous en parlera. L'unité, c'est la diversité réconciliée. Juifs et non-juifs ensemble. Les juifs restent juifs, les non-juifs restent non-juifs. Les protestants restent protestants, les catholiques restent catholiques. Mais ils sont dans l'unité. Amen. Pas d'uniformité. Et frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme si le Seigneur m'avait dit, alors je vous partage ça très humblement, Étienne, tout ce que vous avez vécu là, vous avez remarqué tous les pas que vous avez dû faire de pardon, de réconciliation, d'abandon, pour vraiment apprendre à vous aimer les uns les autres. La prochaine étape, c'est la réconciliation avec le peuple juif. Pour que juifs et non-juifs soient ensemble autour du Messie. Et là, frères et sœurs, il y a du boulot. Parce qu'il y a 19 siècles de séparation où on les a persécutés pendant 19 siècles, on a pris leur place et on les a rejetés. En disant que le nouvel Israël, c'est nous. Ce qui est faux. L'unique Israël de Dieu, c'est juifs et non-juifs ensemble. Tout ça parce que nous sommes, nous, la génération qui est encore plus proche de, non pas l'exaucement qui est en route, mais de l'achèvement de l'œuvre du Messie. Jésus a tout accompli à la croix, vous y croyez? Moi aussi, et Satan tremble parce qu'il se doute bien qu'il s'est passé quelque chose là-bas où il a perdu son pouvoir. Mais on attend le grand achèvement, ce que le grand théologien protestant Oscar Kuhlmann appelle, il donne une belle comparaison que je donne souvent. Vous êtes prêts à l'entendre, elle est facile. Oscar Kuhlmann, c'est un Alsacien, il a connu la guerre, et il a dit, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, c'est exactement, il est mort sur le territoire de l'adversaire de l'ennemi. Il est mort face aux portes de l'enfer qui prévalent pas contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prêcher aux esprits captifs, aux enfers. Et donc, la mort de Jésus, sa résurrection, c'est comme le débarquement des Américains en Normandie. À partir de là, la victoire a changé de camp. Mais il a fallu aller jusqu'à la capitulation finale à Berlin. Vous y êtes? Nous sommes dans l'entre-deux, frères et sœurs. Notre espérance, c'est la mort de la mort et Satan et l'enfer jetés dans l'étang de feu. Tel que le prophétise Ésaïe et l'Apocalypse. J'en parlerai demain de notre espérance. Alors, frères et sœurs, dans ce temps d'achèvement, quelle est l'onction particulière qui est donnée sur nous? L'onction qui est donnée sur nous, c'est l'onction de nuptialité. Entendez bien, l'onction de nuptialité. L'onction de nuptialité. Je terminerai avec ça. Pourquoi l'onction de nuptialité? Voilà ce que dit le prophète messianique par excellence. Quel est le prophète le plus messianique de la Bible? C'est Ésaïe et Osée aussi. Mais Ésaïe, pourquoi Ésaïe? Je suis d'accord, Osée aussi. Hein, alléluia. Ils sont tous messianiques. Mais pourquoi Ésaïe? Parce que Ésaïe, c'est le prophète que Jésus va citer pour commencer son ministère. Il se place délibérément sous l'onction du prophète Ésaïe. Bien sûr, il y a tous les autres. Osée, je te fiancerai à moi pour toujours. Onction de nuptialité. Et voilà ce que dit Ésaïe. C'est un texte qu'on chantait souvent au début du renouveau. Un chant magnifique. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Renforce en ta vie. Éclate en cri de joie, ô fille de Sion. Vous vous souvenez de tout ça? Ben, c'est des prophéties d'Ésaïe, de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, du Premier Testament. Et voilà, je continue. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Jésus prophétise qu'Israël ne sera pas un peuple stérile, mais qu'elle aura une descendance parmi les nations. Et il continue. Et ils peupleront même des villes qui ont été désertées. Pourquoi? Car ton Créateur est ton époux. Dieu s'est toujours présenté comme l'époux d'Israël duquel il n'a jamais divorcé. et cette épousaille donne de la fécondité. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Et Matthieu, qui est un juif, reprend cela au chapitre 22, parce que Jésus l'a dit. Il dit, voilà ce que nous dit Jésus, chapitre 9, verset 1. Jésus prenant la parole, continua à parler à ceux qui l'écoutaient en parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Quel est le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean? L'évangile de Jean, c'est l'évangile de la nuptialité. C'est l'évangile de l'intimité. C'est les noces de Cana. Il envoie du royaume de Dieu comme d'un roi qui préparait des noces pour son époux. Apocalypse 19. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. L'esprit et l'épouse disent, viens. Mon frère, ma sœur, j'ai qu'une seule question. Veux-tu être membre de l'épouse de Jésus-Christ? Alors, laisse l'Esprit Saint enlever de ton cœur, de nos cœurs, je laisse l'Esprit Saint enlever de mon cœur tous les cailloux, tous les obstacles à la communion parfaite entre juifs et non-juifs qui vient bientôt. Amen.